Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Si je vous dis espèce de frustré, vous prenez ça pour une insulte et pourtant impossible de penser vivre sans connaître la frustration. Mais dans notre quête du bonheur, nous avons souvent tendance à vouloir éviter les difficultés de la vie. Alors pourquoi a-t-on tant de mal à reporter nos désirs? Comment expliquer notre intolérance à la frustration, qu'on soit enfant, ado ou adulte? Et comment au final trouver un équilibre entre les principes de plaisir et de déplaisir? Car il faut bien avouer, la vie n'est pas toujours rose. Alors on en parle aujourd'hui avec Didier Pleu, bonjour.
Bonjour.
Comment apprendre à gérer sa frustration? Comment allez-vous?
Tout va très bien, oui.
Tout va très bien, madame le marquis.
Je gère un peu ma frustration dans le sens où j'ai un lumbago, donc il a bien fallu que j'accepte que de temps en temps, mon corps ne répond plus comme je voudrais.
Et est-ce que c'est une frustration de venir jouer en direct avec nous aujourd'hui, un jour férié, alors que les autres travaillent pas, les autres sont en congé et vous, vous êtes venu travailler?
Non, mais vous savez, on y reviendra, c'est souvent ce que l'on se dit dans sa tête. Si je suis en train de me dire c'est férié, etc., jour de repos, je risque effectivement de défiler, de décliner tout un scénario d'intolérance aux frustrations. Si je me dis je suis très content de participer à cette émission parce que je sais que je vais être utile, je vais peut-être partager des choses avec des gens qui en ont besoin et je trouve ça super, formidable. Donc là, je ne suis pas frustré.
Merci alors d'être venu en direct aujourd'hui. Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de thérapie cognitive et vous sortez donc ce livre, c'est toute l'actualité, Le complexe de Tétis, se faire plaisir, apprendre à vivre aux éditions Odile Jacob. Vous nous raconterez effectivement ce qu'est ce complexe de Tétis. Alors les auditeurs, on se demande, on attend vos messages, hein, vos témoignages sur l'antenne, c'est vous qui faites l'émission. Si vous aussi, vous pensez être tolérant ou intolérant à la frustration, comment faites-vous avec vos enfants, vos petits-enfants pour trouver le juste équilibre entre le plaisir immédiat et l'effort? On attend vos messages au 33 1 84 22 75 75 et vos commentaires sur Facebook. Et en fin d'émission, comment se mettre ou se remettre au sport? Nous aurons les conseils avisés du docteur Jean-Marc Sen, qui est médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo.
RFI.
On ne sait jamais que manger. Faire un choix, c'est anéantir tous les autres. La carte du restaurant est la métaphore absolue de toutes nos frustrations. Ça, c'est, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est David Fuequinos, l'écrivain, qui dit ça dans son livre « Je vais mieux ». Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est vrai que quand on est au restaurant, effectivement, c'est toujours, on appelle ça le syndrome de l'assiette du voisin. C'est-à-dire, on a choisi quelque chose, il faut accepter que parfois que le voisin a fait un meilleur choix. Donc, c'est toujours cette histoire de principe de réalité. C'est-à-dire, on a des désirs, on a des envies, on décide de quelque chose, et la réalité nous montre que c'est peut-être pas le bon choix. J'aurais pu avoir mieux, j'aurais pu. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui vont rester aigris, en colère, en disant, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû choisir ça, et les autres qui se disent, ben voilà, c'est la vie, j'ai fait un choix qui était peut-être pas très bon. C'est comme ça. C'est pas la résignation.
Oui, il faut accepter que faire un choix, c'est forcément renoncer
à quelque chose.
À quelque chose.
Toujours. Quand on fait un choix, ça veut dire qu'on va mettre de côté beaucoup d'autres choses. Mais et c'est là qu'on a souvent des comportements un peu infantiles. Et c'est là-dessus que j'ai écrit ce livre en me disant, mais attention, dans le contexte actuel, vous le voyez bien, on en reviendra peut-être avec l'affaire Weinstein, etc. Il y a une très grande faiblesse au niveau de la tolérance aux frustrations. Beaucoup d'humains tombent dans ce panneau du principe de plaisir immédiat, de je veux tout faire, les autres sont des choses, etc. Donc c'est simplement ça mon propos en disant attention, parce que si on n'a pas un bon équilibre entre une vie pleine de plaisir et une acceptation des frustrations, on peut tomber dans ce panneau des addictions, des pathologies, et c'est simplement ça que j'essaie de signaler.
Mais est-ce que la société actuelle crée plus de frustrations qu'avant avec l'info qui circule vite, les réseaux, les envies aussi qui changent si rapidement, le plaisir aussi qui est une valeur maintenant.
C'est le paradoxe, parce qu'en fait, il y a eu quand même, et ça fait maintenant 30 années que j'ai toujours le même discours au niveau de l'attention à la permissivité éducative qui fait que nos enfants sont très vulnérables quand ils sont trop gâtés. hein, quand ils ont trop de bien-être matériel et affectif. Et d'un autre côté, le contexte sociétal actuel va être beaucoup plus dur. On nous parle de changer de profession en cours de route, on nous parle que le couple sera difficile à construire avec toutes les tentations, on nous dit des tas de choses là-dessus. C'est-à-dire, la réalité de 2017 n'est pas si facile que ça. Et en fait, il y a une rencontre entre toute une génération qui a vécu dans une sorte d'abondance et cette réalité-là. Donc c'est ça qui fait que ça dysfonctionne. C'est-à-dire, j'arrête pas de dire aux parents, non pas d'élever vos enfants à la spartiate sur des braises, mais de dire armez-les, parce que la vie va pas être si facile que ça. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'avec la société de consommation et les nouvelles technologies, ceci participe aussi à la baisse de notre tolérance aux frustrations. S'il y a une panne de smartphone ou un bug sur l'ordinateur ou je sais pas quoi, celui qui regarde sa chaîne de télévision alors qu'il en a 150 et tout d'un coup il y a une panne d'électricité, c'est le drame. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès que ça ne fonctionne plus comme ça devrait fonctionner, c'est-à-dire l'immédiateté, etc., c'est la catastrophe.
C'est-à-dire qu'on supporte quand même moins la frustration aujourd'hui qu'avant ?
Oui, parce que avant, bah déjà, alors attention, ça veut pas dire qu'il faut retourner au temps des blouses grises, mais c'est vrai qu'avant, la religion d'un côté, la nation de l'autre, la famille de l'autre, tout était enseigné dans le sens, la vie est pas forcément drôle, elle est un peu grise. Donc l'humain vivait dans un monde où on lui disait, écoute, il y a des guerres mondiales, il y a des épidémies, c'est pas... Bon, bref, il y a eu 68, et 68 était une bonne chose dans le sens, fallait rééquilibrer. Hein, sous les pavés la mare, en gros, carpe diem, faut peut-être profiter aussi de la vie. C'était une bonne révolution, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'on est resté sur ce « jouis de ta vie », la réalité est frustrante, on n'en veut plus, l'autorité, etc. Et c'est là qu'il faut retrouver un bon équilibre, parce que si on reste dans simplement « je fais ce que je veux, je marche à l'envie », je répète, c'est plutôt une attitude infantile, ça. C'est l'enfant qui veut que ça marche comme il en a envie. Mais quand on est adulte, on sait très bien qu'à un moment donné, on met de côté certains désirs, parce que ça n'est pas possible, parce qu'on vit pas tout seul.
Alors, avant de prendre Dina, là, qui nous appelle, juste une définition, quand même, de qu'est-ce que la frustration, exactement ?
La frustration, pour moi, c'est simplement l'acceptation de la réalité. Ça n'est pas se résigner, c'est simplement constater que les choses sont comme ça, et c'est surtout pas voilà comment ça devrait se passer. Hein. C'est-à-dire, ce matin, j'avais pris beaucoup de temps en me disant attention aux embouteillages à Paris. Bon, ben non, c'est la Toussaint. Effectivement, c'était assez irrationnel. Donc, je ne me dis pas t'aurais dû te lever plus tard, t'aurais dû y penser. C'est comme ça. Bon, je viens de province, je suis toujours un peu anxieux avec les embouteillages. J'ai pas fait attention que ça allait rouler aujourd'hui. J'accepte cette réalité d'avoir peut-être perdu 40 minutes de mon presque temps dans la salle d'attente, c'est comme ça. Alors que d'autres seraient en colère, en disant mais quel abruti, c'est le jour de la Toussaint, t'aurais quand même pu savoir que tu pouvais dormir un peu plus.
Ouais, mais vous n'avez pas eu de sentiment de colère, alors justement, par rapport au fait que vous avez peut-être perdu 40 minutes de sommeil ou
Non, justement, on éprouve devant la frustration ce qu'on appelle des émotions négatives, bien sûr, mais proportionnées, fonctionnelles. Ça m'a agacé de me rendre compte que j'étais chez vous en 7 minutes au lieu des 45 minutes prévues. Mais voilà, alors que celui qui est en colère, ça va être... Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est une espèce de colère contre soi. Qu'est-ce que t'es nul? T'as rien anticipé? Ou contre les autres? Qu'est-ce que c'est que tous ces Parisiens qui sont tous couchés alors que je voulais un embouteillage? La colère, c'est une espèce d'injonction sur comment le monde et les autres doivent être. Et à chaque fois, regardez bien, à chaque fois qu'on est en colère, c'est toujours cette phrase, ça aurait dû se passer comme ça, ça devrait se passer comme ça. Vous savez, c'est le grand colérique qui pète un plomb parce que les personnes âgées vont à la pharmacie à 17h au moment de la sortie des bureaux. Il dit, mais il pourrait venir entre 14 et 17. Non, les personnes âgées, c'est la réalité, préfèrent quand il y a du monde. C'est l'autre qui pète un plomb parce que au péage,
il a choisi la mauvaise fille.
Un artiste se met dans la voie express. Bah oui, un rêveur, un amoureux, ou un sénile, ou je ne sais quoi, ou quelquefois quelqu'un qui a un faible QI peut se tromper. C'est la réalité humaine. Le colérique, lui, va se dire non. C'est intolérable. Toute cette vie-là me frustre, me contraint. Et c'est le syndrome on appelle ça le syndrome de Moïse, celui qui pète un plomb sur le périphérique à Paris, quoi. Il faut que la voie s'ouvre devant lui, oui.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une émotion comme la joie, la tristesse ou la colère, la frustration? C'est une émotion ?
Non, c'est un constat. Et selon votre acceptation ou non, vous allez tomber simplement dans de l'agacement, l'énervement. Bon, bah c'est comme ça. Ou alors, dans une colère, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ou dans de l'anxiété, ça me fait peur, la réalité est trop difficile. Parce qu'on parle souvent de la colère, mais des tas d'enfants qui sont anxieux parce qu'ils ne sont trop vulnérables devant le principe de réalité. Anxieux dans la cour de récréation parce que, ils sont pas si gentils que ça. Moi, chez moi, on est gentil avec moi, on communique avec moi, mais dans la cour de récré, on se moque de moi. Toutes ces personnes, ces enfants qui n'ont pas été habitués à ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est-à-dire, il y a des choses très bonnes, qui vont te donner des tas de satisfactions. Mais il y a aussi des choses difficiles, contraignantes, et ces enfants qui ont évité tout ça sont dans un monde virtuel.
Alors, on va tout de suite prendre Dina, qui nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour, Dina.
Bonjour, Sandrine.
Bienvenue Bonjour. Sur l'antenne d'RFI. Nous sommes avec Didier Pleu et on vous écoute.
Bon, moi, pour surmonter les difficultés, d'abord pour les ressentir, c'est, comme a dit le monsieur, la colère qui monte. Donc, on ressent une boule dans la gorge. Donc, pour l'évacuer, je pleure à chaudes larmes. Et ensuite, je lis une phrase de Martin Luther King, qui est une graduation descendante, et elle dit ceci. Si tu ne peux pas voler, tu cours. Si tu ne peux pas courir, tu marches. Si tu ne peux pas marcher, tu rampes. Mais il faut avancer par tous les moyens. Donc c'est quelque chose que je lis tout le temps, tous les jours, et je l'ai noté sur un bout de papier, et je le lis dès que je me sens frustrée, en colère, ou que je vois que les choses ne marchent pas comme je veux.
Et ça, c'est quelque chose donc, qui vous aide dans votre vie quotidienne, Dina.
Oui, oui, c'est ça. Et ces derniers temps, j'arrive plus à pleurer toute seule, donc j'appelle ma maman, et vraiment, je me vide avec elle au téléphone. Bon, c'est pas que j'attends qu'elle me console ou qu'elle me dise ce que je veux entendre. Elle me fait voir la réalité en face. Des fois, elle me gronde et je reprends le dessus en me disant « la vie n'est pas simple ».
Parce que vous êtes confrontée en ce moment à une situation particulièrement compliquée, Dina ?
Oui, oui. Il y a le chômage qui sévit en ce moment au Gabon. Et à chaque fois que je suis prête d'avoir un emploi, eh ben, ça ne marche plus. Il y a des décisions gouvernementales qui sont prises, donc on se sent victime. On se dit pourquoi ça n'arrive.
Pourquoi ça m'arrive à moi à ce moment-là, c'est ça ? Ah, j'ai l'impression qu'on vous a perdu, Dina. Merci beaucoup, hein, en tout cas, pour votre témoignage avec cette phrase de Martin Luther King, effectivement, que chacun doit pouvoir écrire aussi, inscrire chez soi. Didier Pleu, vous voulez réagir ?
Oui, ben, c'est bien quand Dina dit qu'elle a justement ce sorte de... Des fois, il y a des gens qui ont des post-it sur leur frigidaire avec des phrases comme ça qui leur rappellent que ben, la vie, c'est pas forcément un monde de bisounours, c'est très facile. Donc ça peut aider, hein. C'est ce qu'on appelle des petites rationalisations, comme on se dit le matin, si on a du mal à se lever un lundi, on se dit, ben, écoute, travailler en Europe, est-ce que c'est beaucoup plus dur que de travailler dans certains pays qui souffrent beaucoup plus. Tout ça aide beaucoup de comparer, de relativiser, de voir un peu comment ça se passe chez les autres. Mais on dit souvent aussi, pour être encore plus armé sur la frustration, c'est être rationnel, c'est-à-dire être réaliste. Quand j'avais entendu le petit témoignage de Dina, elle parlait bien de, elle avait fait en fait des études, et puis effectivement, il n'y a pas de travail, donc c'est quand même excessivement dur et frustrant de savoir qu'on a travaillé d'une façon assidue et qu'il n'y a pas logiquement un travail au bout. C'est ça le principe de réalité, c'est qu'il n'y a pas de logique. Et quelqu'un qui est rationnel se dit, je vais tout faire pour avoir du travail, je vais tout faire, je continue même si c'est dur, mais j'arrête de me dire que logiquement j'aurais dû avoir accès au monde du travail parce que j'ai fait les diplômes obtenus. C'est pour ça que la maman de Dina est très lucide quand elle lui dit, d'après ce que disait le témoignage, elle me rappelle la réalité. Sa maman doit lui dire, mais écoute, c'est formidable tes études, mais tu as vu la situation au niveau de l'emploi, donc peut-être qu'il va falloir faire un autre petit boulot en attendant, peut-être autre chose. Oui, c'est une sorte d'injustice, mais c'est le principe de réalité. Et c'est ça qu'on n'accepte pas dans l'intolérance aux frustrations. C'est-à-dire, tous les jours, on se dit, mais quelle injustice, ça n'aurait pas dû se passer comme ça.
Donc c'est comme ça que ça se manifeste, alors, cette intolérance aux frustrations.
C'est comme ça que ça se manifeste.
On remet en cause la réalité.
Oui, mais oui, c'est un peu comme... je vous dis, c'est toujours un comportement qu'on a tous à un moment donné, hein, puisque l'humain est branché biologiquement pour le principe de plaisir, donc on est tous comme ça. Si on aime manger, à un moment donné, il faut s'arrêter, sinon on sera en surpoids, etc., etc. Donc, un enfant, par contre, lui, ne peut pas réguler ça. Un enfant, pour lui, c'est logique. S'il a envie d'un câlin, il lui faut tout de suite. S'il a envie de jouer, il lui faut un jeu tout de suite. S'il a envie de s'alimenter, il faut s'alimenter tout de suite. Donc, si on n'a pas été préparé précocement à avoir des rythmes de sommeil, des rythmes d'alimentation, de goûter un peu à tout et de pas tout le temps avoir des adultes qui sont à disposition, l'enfant peut acquérir une certaine solidité en se disant, ben voilà, la cour de récré, la petite blonde ne me regarde pas, mais je sais ce que c'est parce qu'on m'a déjà appris que je pouvais pas tout avoir. Souvenez-vous, le test du psychologue Michel, le test des chamallows, je sais pas si vous vous souvenez, ça, c'était les petits-enfants, on leur mettait une assiette avec trois chamallows devant eux, on leur disait, si vous ne les mangez pas tout de suite, dans un quart d'heure, vous en aurez 10 fois plus. Les enfants de 4-5 ans. 90% de ces enfants-là échouaient et prenaient les chamallows tout de suite parce que c'était pas possible de différer.
Ils peuvent pas résister.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est les 15% qui réussissaient disaient tous, ah oh ben, on m'a dit ça quelquefois à la maison, on m'a souvent dit d'attendre, on m'a souvent dit de penser à autre chose quand j'étais un petit peu, je veux tout de suite. En fait, ça s'apprend, mais ça n'est pas biologiquement naturel.
Alors, on apprendra effectivement avec vous comment on peut reporter ces désirs. D'abord, le complexe de Tétis, pour finir cette première partie, moi, je ne connaissais pas. On connaissait, bon, plutôt le complexe d'Œdipe. Qu'est-ce que c'est que ce complexe de Tétis?
Bah, le complexe de Tétis, lui, à l'inverse du complexe d'Œdipe, qui est symbolique, hein, puisque Œdipe se marie avec sa maman et tue son père de façon inconsciente, le complexe de Tétis, c'est cette déesse Tétis de la mythologie grecque qui, infidèle de Zeus, avait été condamnée à revenir sur Terre avec des enfants qui ne seraient plus des dieux, mais qui deviendraient mortels. Donc, effectivement, elle s'est dit, eh bien, dans la vie, dans cette réalité terrestre qui a l'air difficile, je vais essayer de rendre mes enfants beaucoup plus forts. Donc, elle baignait ses enfants dans l'eau glaciale du fleuve tous les matins, et elle avait oublié, malheureusement, le talon de son fils Achille. Donc, ça voulait dire que si on n'a pas une éducation à un moment donné un petit peu plus contraignante et difficile, ça ne veut pas dire spartiate sur des braises, mais difficile, avec de l'amour bien sûr, l'enfant sera très vulnérable. Et le complexe de Tétis, c'est quand il y a un déséquilibre entre plaisir et déplaisir, c'est-à-dire quand quelqu'un donne trop de plaisir, trop de monde bisounours, virtuel, etc., et il y a un déséquilibre avec le principe de réalité, tout simplement.
Donc en fait, c'est pour montrer qu'on ne peut pas élever quelqu'un dans du coton, c'est ça. Il faut faire un peu de mal pour apprécier la vie.
Oui, non, ça peut être jugé.
Comment vous interprétez ça ?
Oui, non, ça peut être. C'est pas faire mal, c'est équilibrer avec la réalité. C'est-à-dire que si un enfant est tout le temps plongé dans un monde où tout est facile, c'est-à-dire on répond tout le temps à ses sollicitations, on répond tout le temps à ses désirs, et s'il devient une sorte de petit roi à la maison, ça n'est pas la réalité. Donc, dans le mythe de Tétis, c'est ce que j'essaie de dire, c'est non, on aime son enfant, on fait tout pour sa créativité, sa singularité, on ne revient surtout pas aux blouses grises début 20e siècle où l'enfant n'était qu'un légume. On tient compte de tout ce qu'a dit la psychologie positive, de passant de Montessori, Neil, Dolto, etc. C'est une bonne chose. L'enfant est unique, on fait tout pour qu'il soit épanoui, autonome et heureux.
Mais on ne revenait pas là-dessus.
Non, mais il faut rajouter en même temps, alors vous allez dire que c'est peut-être de la psychologie macroniste, j'en sais rien, mais en même temps, est-ce que l'on peut dire à l'enfant « je t'aime, mais là, c'est non, je t'aime, mais non, je ne discute plus là-dessus » parce qu'on ne peut pas tout le temps exprimer ses émotions et dire et communiquer des fois « un feu rouge, c'est un feu rouge ». C'est simplement ça que je dis. Il faut les armer pour ça. Si un enfant devant un jeu n'y arrive pas parce que c'est trop complexe, combien de fois je vois les parents ou en crèche les adultes aussitôt intervenir pour que l'enfant réussisse son projet. Non, qu'il refasse, qu'il recommence. C'est là que l'adulte doit intervenir. Pas faire à sa place, pas le valoriser quand c'est dur, mais lui dire, hey, t'as un petit souci quand ça ne marche pas comme tu veux. Ben, recommence. Toutes ces petites choses, ça, je ne demande pas à ce qu'on baigne les enfants dans les eaux glaciales pour les rendre plus forts. Je leur demande, soyons vigilants. Est-ce qu'on n'est pas en train de leur construire un monde qui est complètement virtuel, qui n'est pas la réalité? Et comme par hasard, les enfants que nous ne voyons pas, nous, dans les cabinets de consultation psychologique, les enfants les plus résilients, quand on enquête, quand on demande comment ça s'est passé avec les parents ou dans l'enfance, nous racontent tous la même chose. Oh ben quand on est enfant, il y a des bonnes choses, mais c'est difficile aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire et qui nous étaient interdites. Voilà, ce sont des enfants qui nous disent vivement qu'on soit adulte. Ceux que je vois en consultation, c'est « Oh, qu'est-ce que c'est formidable d'être un enfant, c'est facile, on a plein de choses, on a plein de récompenses. » Et ceux-là ont du mal dès qu'on a la petite frustration de l'école qui va devenir de plus en plus importante.
Ils ont du mal à accepter alors les obstacles qui peuvent se dresser devant eux. Didier Pleu, vous restez avec nous, on va continuer avec votre complexe de Tétis donc, que vous publiez aux éditions Edith Jacob, Se faire plaisir, apprendre à vivre. On se retrouve dans 3 minutes avec les pathologies aussi que peuvent entraîner ces intolérances aux frustrations, comment apprendre à les gérer, qu'on soit enfant, ado ou adulte. Restez avec nous dans 3 minutes, on se retrouve après le flash au 33 1 84 22 75 75. Les auditeurs, on vous attend, c'est vous qui faites l'émission.
Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans Priorité Santé, parce que dans la vie, tout ne se présente pas toujours comme on veut. Quand on veut, eh bien, ça crée des frustrations. Mais comment apprendre à supporter ces frustrations et à vivre avec? C'est peut-être aussi un des rôles des parents d'éducation pour leurs enfants. Comment apprendre à équilibrer plaisir et déplaisir pour mieux profiter de la vie? On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. Et sur notre page Facebook, nous sommes avec Didier Pleu, psychologue, psychothérapeute, docteur en psychologie du développement, directeur de l'Institut français de thérapie cognitive, tout ça et son dernier livre, donc Le complexe de Tétis, Se faire plaisir, apprendre à vivre aux éditions Odile Jacob.
Je ne veux pas aller au lit.
Je veux aller à la crèche.
Non, si. J'ai dit non.
Si. Je veux.
Je ne veux pas qu'on m'aide.
Je ne veux pas prendre mon bain.
Deux claques, Didier Pleu, qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de réaction?
Non, pas deux claques, on va en reparler, ça c'est ce qu'on appelle l'autorité en aval, quand on est vraiment parent en colère, qui ne pense plus qu'à rejeter l'enfant... effectivement donner une petite claque ou des choses comme ça, mais c'est typique.
Ça défoule, mais ça règle rien.
Non, oui. Ça règle rien. C'est typique dans ce qu'on a entendu là. L'enfant qui dit je veux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on me répétait toujours entre l'instituteur ou le curé du village, c'était nous voulons quand on disait je. Ça, c'était trop. Ça voulait dire que le nous devait l'emporter sur le je. Alors, si on est un peu plus... si je peux plus définir les choses, ça voulait dire quoi? Que ton ego passe après la communauté des autres. C'était trop. Il était évident qu'il fallait quand même revaloriser ce fameux ego. On n'est pas sur Terre simplement pour les autres, on est aussi pour soi, pour vivre sa vie et obtenir un certain bonheur. Donc simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a trop basculé dans l'ego. Quoi. C'est-à-dire que maintenant, combien d'enfants, ils sont là en train de dire « mais je veux ça, j'en ai envie, et c'est comme ça, je ». Alors, il n'est pas question de leur dire « non, on dit nous voulons », mais il est question de se dire « comment ça se fait que cet enfant n'a pas encore inclut la présence des autres. » Et souvent, c'est le parent qui va être le premier autre. C'est vrai que si le parent répond toujours, et c'est malheureusement ce que je vois dans tout ce qui a été, vous savez, co-sleeping, alimentation à la demande, etc. Si la maman a toujours été la chose de l'enfant, quand l'enfant désire s'alimenter, câliner, etc., il y a de grandes chances qu'il n'apprend pas rapidement que non, l'autre est un autre. Et c'est vrai que les mamans qui ont tout de suite su, entre la demande de l'enfant, réguler l'alimentation et leur propre demande de sommeil, etc., ont très vite obtenu des enfants qui faisaient leur nuit. Pareil au niveau des câlins, pareil au niveau des jeux. Les mamans ou les papas qui très vite disent « mais on t'aime, mais on est aussi présent, nous en tant qu'adultes, on a des choses à faire », l'enfant va bien. Mais dès que les parents sont trop près de l'enfant dans ses désirs, « oh, il n'y a pas de caprice, s'il demande ça, c'est qu'il y a forcément un sens derrière », ça y est, ils tombent dans le panneau, ils vont coucher avec le tout petit qui ne peut plus s'endormir, ils vont faire une alimentation à la demande parce que le petit n'aime pas tout ce qui est amer, il faut que du sucré, ils vont tout le temps jouer parce que le petit n'aime pas s'arrêter, il y aura jamais de sieste parce qu'il n'aime pas dormir, etc.
Vous allez quand même à contre-courant, effectivement, de ce mouvement quand même qui dit qu'il faut suivre le rythme de ce que veut l'enfant, être à son écoute, changer le rapport à l'autorité. C'est ce qu'on entend.
Mais ça, c'est la psychologie dite positive, surtout l'éducation bienveillante, dont j'ai rien contre, puisque moi j'ai participé à un des programmes australiens qui s'appelait Triple P sur la parentalité positive. Mais déjà à l'époque, je disais à mes collègues australiens, vous ne parlez jamais de frustration. Vous ne parlez jamais d'un moment donné de... Peut-être qu'on est aussi là, en tant qu'adulte et parent, éducateur, pour que l'enfant vive des situations plus difficiles. C'est ce que je vous disais, un jeu qu'on veut abandonner, une activité qu'on veut abandonner parce que l'entraîneur vous met pas avant-centre en foot, ou une activité de musique qu'on abandonne parce que le solfège est trop dur. C'est là que le parent doit tenir bon en disant « oui, ça ne te plaît plus, tu n'aimes pas ça pour l'instant parce que c'est l'étape difficile de l'apprentissage sportif, musique ou de l'école, mais on continue ». Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer le piano 40 ans si on déteste ça. C'est ce qu'était malheureusement le leitmotiv des parents d'avant. C'était, il choisit pas, il va jusqu'au bout. Non, entre eux, je répète, la destruction de la singularité de l'enfant et puis laisser tout faire, et c'est là qu'il faut qu'on intervienne.
C'est pas facile de trouver le juste milieu.
C'est difficile.
On doit rencontrer des obstacles, certes, ce que vous dites, pour se construire, pour se développer, mais jusqu'où l'obstacle, le mur est haut à franchir ou pas?
De toute façon, alors là, je vais paraître un peu cynique, mais il y aura la finitude au bout. Donc, si effectivement l'humain vit dans un monde virtuel de jouissance, ça sera très dur au moment du vieillissement.
Alors, on va tout de suite parler avec Jeannette Barma qui nous attend depuis Lomé. Bonjour, Jeannette.
Bonjour Sandrine.
Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui. Vous êtes psychologue clinicienne au CHU Campus de Lomé, donc au Togo. C'est vrai que la vie n'est pas toujours rose, hein, surtout au Togo, là, avec les derniers événements que vous avez eu à vivre. Est-ce que vous, par rapport au sujet d'aujourd'hui, comment vous trouvez que les Togolais réagissent aux contrariétés, aux frustrations de la vie du quotidien?
Le Togolais, surtout celui qui vit en milieu urbain, est déjà sous contrainte, hein, compte tenu des sollicitations, des multiples défis à relever, en lien avec surtout le milieu urbain. Alors là, quand il y a un tracas, il y a des contrariétés, ça constitue une pression supplémentaire. Alors donc, d'une façon générale, l'imprévu n'existe pas parce que le Togolais a l'habitude de dire si Dieu le veut. Alors le si Dieu le veut signifie qu'en principe il y a de la place pour l'imprévu. Mais quand l'imprévu arrive, ça constitue une difficulté de plus. Ce qui fait que d'habitude, dans sa réaction, on est dérouté, déboussolé, désespéré et désorganisé. Mmh. Alors, les contrariétés apparaissent comme une entrave majeure au bon fonctionnement de la personne du Togolais. Parce que toute la journée est déprogrammée, toutes les activités sont réduites à zéro, etc. Mmh. Par contre, quand on se trouve en milieu rural, on accepte beaucoup plus la contrariété parce que là, on se donne beaucoup plus de temps, on est beaucoup plus patient et on les gère avec beaucoup plus de patience en milieu rural.
Oui. Et est-ce que vous trouvez, vous, par exemple, que les parents, en ce moment, en 2017, est-ce qu'ils préparent leur enfant à surmonter les difficultés de la vie?
Là aussi, ça se fait en deux temps, parce que les parents aujourd'hui, d'un certain niveau de vie avec la modernité, ont plutôt tendance à laisser faire. Et dans certains milieux, il y a un peu de surprotection de l'enfant. Alors, par contre, généralement, dans la culture togolaise, la surprotection n'existe pas. Parce que l'enfant doit être confronté assez tôt, dès son jeune âge, à des privations, à des situations difficiles, pour le préparer à confronter tout aléa dans la vie. Et très souvent, les parents pensent que, se faisant ainsi, alors ils préparent l'enfant, même pour des situations extrêmes où il venait à mourir. Donc, du coup, dans la culture, généralement, la surprotection n'existe pas. L'enfant est assez vite préparé à affronter la vie. Mais avec la modernisation, la transformation sociale, on assiste de plus en plus, soit à un laisser-aller, soit à une certaine forme de surprotection de l'enfant.
D'accord, donc ça commence à arriver un peu, cette tendance à la surprotection qu'on voit nous en Occident. Oui, Didier Pleu veut réagir.
Oui, le témoignage est très très intéressant, et bien sûr je bois du petit lait, parce que ce que dit votre auditrice, qui est psychologue d'ailleurs, c'est de dire que ce sont dans les villes, avec la modernité et avec sans doute un mieux-être social, qu'on voit ce genre d'attitude parentale trop protectrice ou qui laisse un peu trop faire ou qui gâte un peu trop l'enfant, alors que dans le milieu rural, on reste avec des traditions qui préparent l'enfant à une vie qui n'est pas forcément facile. Et je me souviens de grandes enquêtes d'anthropologues américains qui avaient bien regardé dans les sociétés dites non industrielles comment ça se passait au niveau éducatif. Et là, ils étaient tous témoins que dès qu'un enfant était en colère, on lui apprenait que si tu es en colère, c'est que tu n'as pas compris que la vie n'est pas facile. Il n'y avait pas de crise d'adolescence dans ces cultures-là. Il y avait surtout des volontés de tous les adultes qu'un enfant très vite partage des petites tâches avec la communauté. Quand on faisait des jeux, c'était des jeux de société, pas des jeux individuels. Donc toutes ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir d'une façon, je sais pas quoi, ancestrale, à des... C'est pas ça que je veux dire. C'est gardons ce qui était de bon sens. sens dans les cultures traditionnelles et prenons ce qui est bon dans nos sociétés dites modernes, et là on fera une heureuse synthèse. C'est bien mon propos. S'il y a un équilibre entre la joie de vivre, ne pas être pessimiste toute sa vie, et puis aussi cette réalité qu'on a reçue par l'éducation, je crois que là on n'est pas dans le complexe de thétisme.
Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, par exemple au Togo, les enfants ont plus le droit quand même qu'avant d'exprimer leur frustration?
Oui, les enfants ont plus le droit dans certains milieux, surtout les milieux intellectuels ou socialement nantis ou moyens. Là, il y a quand même une certaine autorisation à l'enfant d'exprimer ses désirs. Cependant, quand on regarde fondamentalement un milieu toujours rural ou périurbain, alors déjà culturellement, l'expression de la frustration n'est pas permise au Togo, parce que c'est perçu comme une certaine désobéissance à l'adulte ou même une remise en question de l'autorité parentale. Alors par contre, dans certains milieux, ça commence à émerger. Il y a quand même une petite autorisation de cette expression-là, où les parents font l'effort de mieux communiquer avec les enfants et donc de prendre en compte cette donnée de l'expression de la frustration de l'enfant.
Alors Didier Pleu aussi veut réagir à ce que vous dites.
Oui, parce que là il faut faire très attention, parce qu'on a entendu ça pendant des décennies, cette confusion entre le mot frustration et castration-inhibition. C'est-à-dire que l'enfant ne pouvait pas dire, exprimer une colère, exprimer un ressenti, parce qu'aussitôt l'autorité adulte lui disait c'est comme ça. Donc dans ce cas-là, non, c'est exprimer sa frustration, on a le droit, mais c'est quand ça concerne l'ego, c'est un des désirs singuliers de l'enfant. Là, on a écouté, qu'est-ce qui se passe? Mais quand c'est effectivement un enfant qui est en colère parce qu'il réalise pas un jeu ou parce qu'on lui donne pas la part de gâteau qu'il faut, etc., on peut écouter sa frustration d'avoir moins de gâteau que sa sœur, oui, mais il faut aussi qu'il soit habitué à ce qu'on n'aura pas toujours la même part de gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les deux. On peut exprimer son ressenti, mais il faut aussi apprendre que de temps en temps, ça n'est pas possible d'avoir la même chose que le voisin, ça n'est pas possible d'être tout le temps écouté. Je vois combien d'ados qui me disent, des jeunes adultes qui me disent dans le monde du travail, je ne comprends pas, mon collègue ne me parle pas, mon directeur ne m'écoute pas. Nous, chez nous, on communiquait, dès que j'avais quelque chose à dire, on me disait, mais pourquoi t'es un peu en colère, l'école ça n'a pas été, ta petite copine ça va pas. Il était habitué à dire son ressenti, ce qui est une bonne chose. Mais c'est pas évident que le patron l'écoutera de la même façon. Alors je ne dis pas qu'il faut pas écouter les enfants pour les habituer à un monde gris. Ce que je dis, c'est écoutez-les, mais de temps en temps, dites-leur que écoute, je suis désolé, mais ce soir, j'aimerais mieux que ce soit ta sœur qui parle, tu monopolises tout, et puis arrête d'avoir un ego hypertrophié, parce que tu verras que dans la vie, les narcissiques n'enchantent pas tout le monde.
Merci beaucoup, Jeannette Barma, d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes psychologue clinicienne au CHU Campus de Lomé, au Togo. Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Seriez-vous intolérant à la frustration? C'est la question qu'on essaye de régler aujourd'hui dans Priorité Santé. Comment apprendre à supporter les frustrations pour profiter de la vie? Et nous sommes avec Didier Pleu qui publie Le complexe de Thétis, se faire plaisir, apprendre à vivre chez Odile Jacob. Et on enchaîne tout de suite avec Dominique qui est une femme. On est contente d'accueillir sur l'antenne des RFI de Libreville, au Gabon. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Dominique. Vous avez composé le 33 1 84 22 75 75.
D'accord. Alors, pour moi, pour lutter contre la frustration, je parlais d'une espèce de recette de grand-mère que j'ai eue de ma maman qui consistait à toujours se comparer. Par exemple, au quotidien, lorsque les choses n'allaient pas, si je trouvais que ma situation ne fonctionnait pas comme je le voulais, ma mère avait tendance à me comparer à quelqu'un avec une situation beaucoup moins envieuse que la mienne. Et ça fonctionnait. Et donc, du coup, au quotidien, c'est ce que je pratique pour être de moins en moins frustrée.
Et vous partagez aussi avec vos enfants?
Oui, avec mes enfants. Je l'applique dans toutes les situations possibles. Par exemple, à mon travail, je ne suis pas encore régularisée au niveau de ma situation administrative. Et donc, quand je me plains au quotidien, ça me frustre. parce qu'il y a des gens qui sont venus après moi, mais qui sont régularisés. Et elle me dit, bah, vu la situation actuelle du Gabon, toi au moins tu as quelque part où être. Toi au moins tu n'es pas au chômage. Et quand je regarde autour de moi, je vois qu'effectivement, même si je ne suis pas régularisée comme je voudrais, et bien, je suis quand même au travail. Donc pour ça, ça me frustre de moins en moins. Je commence à l'accepter et à me dire que quand mon temps va arriver, et bien, je serai régularisée comme les autres.
Donc en fait, c'est de regarder les gens, entre parenthèses, plus malheureux que vous. C'est ça qui vous tient debout, c'est ça?
Plus malheureux, oui, oui, dans des situations comparables. Par exemple, je vais bientôt avoir 30 ans, je suis mariée, parfois ça ne va pas toujours bien dans mon mariage, et quand je me plains avec ma maman, elle me dit, bah, y en a d'autres dans ta situation qui aimeraient être mariés et qui ne le font pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on applique partout, avec les enfants, ça ne se passe pas bien, c'est vraiment partout. Et ça soulage de voir qu'en fait, on n'est pas les plus malheureux du monde, et donc on n'a pas de raison d'être frustré. Parfois, même lorsque je suis frustrée, ça se transforme en reconnaissance. Parce que je me rends compte de la chance que j'ai, et donc la frustration se transforme.
Donc vous savez regarder avec des lunettes positives un peu la situation que vous êtes en train de vivre, malgré les difficultés. Merci beaucoup, hein, Dominique, pour votre témoignage. On va faire réagir Didier Pleu.
Eh bien, moi, ce que j'aime bien dans ce témoignage, c'est que, avec l'histoire de la comparaison, c'est de dire, envisage toute la réalité. Et pas simplement la réalité de tes désirs. Donc ça, c'est une bonne chose. Je sais que ma femme m'écoute, elle disait toujours à mes enfants, quand ils étaient dans un truc comme ça, c'est pas juste, ou l'autre a ceci, ma copine a cela, elle dit toujours, est-ce que tu prendrais tout chez elle? C'est la même chose. Mais attention, faut pas, là encore une fois, dire, rationaliser en disant, ben voilà, il y a plus malheureux que moi, donc je suis heureux. Et quelquefois, faut aussi accepter qu'il y a des gens qui sont peut-être plus heureux que nous, plus chanceux que nous, etc. Parce que c'est ça aussi le principe de réalité. Mais si on l'accepte tôt, non pas dans le sens résignation, mais dans le sens je reconnais que les choses sont comme ça, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux comme eux, ou est-ce que je vais accepter de différer d'autres choses? C'est ça la réalité. C'est-à-dire, faut pas bluffer les gens. Oui, il y a des injustices. Oui, il y a des inégalités. C'est qu'est-ce que je fais pour qu'il y en ait moins. Ça, c'est une autre option, et c'est ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est l'acceptation, ça n'est pas se résigner, c'est pas simplement trouver un truc d'auto-suggestion positive, c'est puisque j'accepte cette réalité, je vais tout faire pour que ma vie soit plus heureuse, parce que là, j'ai peut-être une chance d'être à la barre, alors que si je suis en colère, ça va être le monde n'est pas juste, mon enfance n'a pas été juste, le président de la République n'est pas juste, l'environnement n'est pas juste, c'est pour ça que je suis malheureux.
On est dans la plainte et ça ne règle rien.
Tout à fait.
Alors, Douglas aussi, Gildas, pardon, de Douala au Cameroun, trouve aussi que c'est compliqué, hein, de faire face à la frustration. Bonjour Gildas.
Bonjour madame.
Nous vous écoutons.
Oui, justement, j'ai, pendant mon cheminement, traversé quelques expériences frustrantes. Et celle qui m'a vraiment marqué, celle qui a vraiment retenu mon attention, c'est celle que j'ai connue lorsque j'étais en troisième année à l'université. Et dans une matière, c'est bien vrai que c'est très personnel, dans une matière où j'excellais vraiment, Et dans le dynamisme a fait en sorte que l'enseignant se m'adopte vraiment parmi ses meilleurs étudiants de la classe. Il est arrivé que aux examens finaux, j'ai enregistré une note de 6 sur 20 qui était totalement antinomique aux notes que j'avais précédemment enregistrées lors des compositions en salle. Et du coup, j'ai ressenti quelque chose, c'est-à-dire c'est comme si le ciel me tombait sur la tête, surtout que j'étais décidé à cette année-là à obtenir la licence au moins avec 12 de moyenne, c'est-à-dire avec une mention assez bien. Voilà, vraiment, et la note tombait comme ça pour complètement constituer un plafond de verre à l'obtention de ce résultat-là. Pendant ce temps, c'est-à-dire l'enseignant lui-même, je savais, en fait, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Et bien après, quand j'ai discuté avec l'enseignant, puisqu'il m'avait adopté, je lui ai fait part de ce que j'avais eu six en matière, la matière où j'étais très excellent, et j'étais parmi les meilleurs du niveau.
Oui, alors on comprend, effectivement, vous ne l'avez toujours pas accepté, hein, ce 6 sur 20, alors que vous étiez excellent en économie. Et vous posez aussi une question, Gildas, quelle est du coup la différence entre une déception et une frustration?
La déception, ça va être un sentiment, bien sûr, négatif, mais comme on dit, proportionné et fonctionnel. C'est-à-dire, quand on est déçu, À la limite, je suis déçu de ma note, c'est injuste, c'était un des meilleurs de la classe et l'enseignant n'a pas su noter comme il fallait. Ça me déçoit beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire pour me faire reconnaître dans mon excellence? C'est-à-dire, on va aller voir le prof, on va aller faire quelque chose, on va faire. Quand on est dans une émotion négative disproportionnée, comme la colère, par exemple, ou la déprime, colère, ça va être, ça aurait jamais dû se passer comme ça, ça n'est pas juste, l'enseignant n'aurait pas dû faire ça. On reste dans sa colère, mais on ne fait rien. Et si on rentre dans la dépression, c'est bien la preuve que je suis impuissant devant ces tout-puissants qui notent n'importe comment. On va refaire le monde dans sa tête, ruminer, mais on ne fait rien. C'est là qu'on voit la différence. L'acceptation amène l'action. Les choses sont comme ça, elles peuvent être injustes, ça ne me plaît pas, je ne dis pas que je rigole quand on est injuste avec moi, mais qu'est-ce que je fais pour réparer, ou si je ne peux pas réparer, ben, à un moment donné, je ne peux qu'accepter.
Et ça va dans le même sens que Didier, là, qu'on n'a pas le temps de prendre au téléphone, de Djamena, qui nous dit « je n'arrive pas à me contenir lorsque je fais face à une attente ». Donc c'est insupportable pour lui d'attendre.
Oui.
Il dit comment faire ?
Ah ben, comment faire ? Non, alors s'il me demande, là, il faudra qu'il aille voir un psychiatre, il va lui donner la pilule miracle. Ou je ne sais quoi, qui va le rendre plus tolérant aux frustrations. Non, là, pareil, pour être plus tolérant aux frustrations, il va falloir en accepter encore plus. C'est-à-dire, c'est un travail quotidien. C'est-à-dire, effectivement, je me donne 2 jours sans smartphone, j'essaie de ne pas tout le temps aller sur l'ordinateur, j'essaie de ne pas manger dans les viennoiseries dès que j'ai un peu d'appétit. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir une discipline de vie où je vais aller dans ma zone rouge. Ça ne veut pas dire que je vais être le Dalai Lama en 5 leçons, mais est-ce que je suis capable, dans les zones où je suis très infantile dans mes demandes, de différer, d'attendre un peu? Et c'est là qu'il verra qu'il va se construire peu à peu. J'ai vu des gens comme ça qui, le week-end, ne faisaient que du loisir et déprimaient le dimanche soir, tellement c'était dur la vie de reprendre le lundi.
Oui, c'est le cas d'Antoine dans votre livre.
Hein. Voilà, mais oui. Qu'est-ce que vous allez faire le week-end de différent? Oui, il y aura des choses plaisantes, mais est-ce que vous pouvez effectivement tourner votre pelouse ou aider à faire je ne sais quoi dans le jardin ou bricoler un peu des choses que vous avez en retard? Et les gens qui faisaient ça disaient « qu'est-ce que c'était pénible votre truc, je pensais à vous, mais après vous étiez comment ?» Ah ben c'est vrai qu'après, c'était plus facile pour moi effectivement d'accepter la réalité. Oui, parce que si on est toujours dans un monde de plaisir, notre cerveau reptilien, il en veut encore plus. Donc il faut qu'avec notre cortex, on se dise « ok, ça c'est notre côté biologique sympathique, mais il faut quand même que j'humanise un peu tout ça. »
C'est comme le sucre.
Exactement.
Okay. Le plaisir du sucre qui fait qu'on devient complètement addict. Merci beaucoup hein, Didier Pleu, je rappelle que vous êtes psychothérapeute et auteur du Complexe de Tétis chez Odile Jacob, un livre que je conseille à tout le monde, donc se faire plaisir et apprendre à vivre, on peut faire les deux en même temps. Merci
voilà.
Beaucoup d'avoir
Merci,
été avec nous en ce jour férié.
Priorité santé sur RFI.
Et on a rendez-vous tout de suite avec le docteur Jean-Marc Sen en direct pour sa chronique sport. Bonjour, aujourd'hui vous êtes au téléphone Jean-Marc, bonjour.
Oui, bonjour Sandrine.
Alors c'est vrai que vous nous vantez souvent sans relâche les bienfaits de l'activité sportive. C'est bien sûr admis que le sport contribue au bien-être des individus. Mais quels conseils vous avez à donner justement pour ceux qui souhaitent se lancer ou se remettre au sport? Comment peuvent-ils débuter?
Bon, eh bien Sandrine, en fait, vraiment, je crois que le message qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que quel que soit leur âge, hein, quel que soit leur état de santé, eh bien, s'ils font une activité physique régulièrement, eh bien, ça va améliorer un ensemble de choses. D'abord, leur force musculaire, ça va permettre de diminuer leur masse graisseuse, diminuer un essoufflement lorsqu'ils font un effort, et puis avoir moins de stress aussi, avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc, d'une façon générale, nos auditeurs auront une sensation de bien-être qui sera augmentée, aussi bien physique que mental.
Même si ça demande un effort au début, c'est ce qu'on disait dans l'émission.
Absolument, même si ça demande un effort. Et surtout, il ne faut pas attendre d'avoir du temps. Hein. Ça, c'est souvent l'élément qui est donné. Au quotidien, il faut modifier certains réflexes, essayer de marcher autant que possible pour aller au travail, faire les magasins, utiliser les escaliers. Et puis aussi, éviter de rester assis trop longtemps. Hein. Vous savez, c'est cette notion-là de sédentarité, manque d'activité physique. Le fait de rester assis, eh bien, ça, c'est assis ou allongé, bien sûr, sans rien faire, ça c'est quelque chose qui est également très négatif sur le plan du bien-être. Et puis, bien sûr, bah, un jour, quand la motivation arrive, eh bien, on peut commencer par faire des sollicitations douces. Ce qui sera très important, c'est d'être régulier. Il vaut mieux faire des efforts régulièrement légers que des efforts extrêmement forts rarement. Donc éviter toute reprise brutale, parce que c'est justement là que le risque de blessure ou de problème cardiaque, justement, peut arriver.
Et alors si vous étiez jusqu'à maintenant très sédentaire, donc si on veut débuter en adoptant certains réflexes, ce serait quoi ?
Eh bien, alors, les premiers réflexes, on va dire, les règles du bien-être. Hein. Première chose, c'est bien s'échauffer et bien récupérer quand on fait un effort. Avoir une qualité, des qualités d'équipement, des qualités de chaussures, boire de l'eau régulièrement, avoir une alimentation équilibrée, éviter de fumer, ça c'est essentiel, et surtout jamais avant un effort dans les deux heures qui précèdent. Bien tenir compte, deuxième règle, bien tenir compte de son environnement. Quand il fait très froid ou très chaud, moins de 5 degrés, plus de 30 degrés, quand il y a des pics de pollution, il faut éviter là aussi de faire de l'activité physique. Et puis, la troisième grande règle, c'est savoir écouter son corps, hein, bien sûr. Si jamais on a des blessures, il faut arrêter temporairement. Si on a de la fièvre, il ne faut pas faire de l'effort physique. Si on a des douleurs, un essoufflement anormal ou un malaise, il faut savoir en parler à son médecin. Donc ça, c'est vraiment les conseils que l'on peut donner.
Est-ce que ça vaut le coup de consulter un médecin si jamais on n'a pas fait de sport depuis longtemps avant de s'y mettre?
Eh ben, alors, si on veut faire du sport au sein d'une association sportive, hein, bon, classiquement, il faut un certificat. Alors là, le médecin va vous interroger, il va vous ausculter, hein, il va faire éventuellement un électrocardiogramme. Vous savez, c'est ces électrodes-là qu'on met sur le thorax et qui permettent de regarder le fonctionnement du cœur. Et même, éventuellement, vous aurez de faire un effort si vous avez plus de 35 ans ou si vous fumez. Et là, ça nous permettra de faire, bien sûr, de l'activité physique en toute santé.
Merci Mais beaucoup. Là, voilà. Merci beaucoup, hein, Jean-Marc Sen. C'est la fin de l'émission. Merci hein, d'avoir pour votre fidélité à tous nos auditeurs. Et demain, nous parlerons des ados qui s'occupent de leurs parents malades. Ce sont les jeunes aidants. Une récente enquête qui vient de sortir en France, d'ailleurs, pointe du doigt ce phénomène peu visible. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. À demain. Portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.